Europe 1, il est 8h.
On voudrait être reconnu. Le pardon, oui, il faut qu'on l'ait. Tout ce qu'ils ont vécu, je veux qu'on en parle. Tout ce que j'attends, c'est qu'on ne nous oublie pas.
La parole de Harki ce matin sur Europe 1, ne pas être oublié. 60 ans après la guerre d'Algérie, la douleur est toujours très vive chez ces Harki qui vont être reçus à l'Elysée par le président de la République. Un fonds de réparation de 300 millions d'euros pourrait être débloqué en leur faveur. Le pass sanitaire, peut-être bientôt au cas par cas. L'exécutif envisage de l'adapter à la situation de chaque territoire. On parlera dans ce journal également de politique avec une rencontre qui fait jaser à droite. Nicolas Sarkozy reçoit Xavier Bertrand aujourd'hui. Et puis l'Allemagne va tourner une page de manière imminente. Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence à l'issue des législatives ce dimanche. À 8h15, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mon invité, c'est le général Christophe Gomard. Il a été le patron du commandement des opérations spéciales, homme de terrain et de réflexion. Il nous livrera son analyse de la crise des sous-marins et de la place de la France dans le monde.
À tout à l'heure.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils étaient des centaines de milliers, les Harkis engagés aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie, puis oubliés par l'État français. C'est vers eux et vers leurs descendants qu'Emmanuel Macron veut faire un pas aujourd'hui. 300 membres d'associations sont reçus à l'Élysée ce matin. Le chef de l'État pourrait leur annoncer la création d'un fonds de 300 millions d'euros et le vote d'une loi sur la reconnaissance des préjudices subis, des souffrances que tous ont gardées en mémoire. Joanna Chabas.
Yamina est née en Algérie en 1958, 4 ans avant l'indépendance. Aujourd'hui, à 63 ans, elle est toujours marquée par des années de souffrance. Être fille de Harki est un fardeau qu'elle a dû porter toute sa vie.
Mon père a été torturé par les Algériens. Moi, j'ai vu les traces sur son corps. Avec des tenailles, on lui a enlevé la peau. Croyez que je l'oublierais, ça ? Jamais. Ensuite, arrivé en France, on était dans un camp. On n'avait pas le droit de sortir, on devait rester à la maison tout le temps. On est la cible, tout le temps, par le français. Lui, c'est « Oh, ces Arabes !» Et t'as de l'autre côté, les Algériens qui nous traitent de salarki, c'est devenu une insulte. On est devenu une insulte.
Elle aimerait que sa famille soit indemnisée pour tous les biens qu'elle a perdus. Mais surtout, Yamina a un besoin de reconnaissance.
Si c'est des broutilles, si c'est pour nous donner 10 000 euros, bah, ils peuvent les garder. On voudrait être reconnus. Le pardon, oui, il faut qu'on l'ait. Tout ce qu'ils ont vécu, je veux qu'on en parle, qu'on nous parle à nous. Nous qui avons souffert, nous qui avons mal vécu. Tout ce que j'attends, c'est qu'on ne nous oublie pas.
Une reconnaissance que Yamina veut surtout pour ses enfants, pour qu'ils ne subissent pas, comme elle, le poids de cet héritage.
Le reportage de Johanna Chabas. Sachez qu'à 8h40, le Zoom Info ce matin sera consacré justement aux Harki. Nous serons avec Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État, fille de Harki, ainsi que Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles. Et si on pouvait de nouveau entrer librement dans les cafés, les restaurants, le cinéma, sans avoir à présenter un pass sanitaire ? Le gouvernement réfléchit à des allègements.
Oui, mais seulement dans les régions les moins touchées par le Covid dans un premier temps. Nicolas Feldman, il faudra donc scruter les taux d'incidence de chaque territoire.
Oui, avec un seuil d'alerte fixé à 50. Or, aujourd'hui, eh bien, une trentaine de départements se trouvent bien en dessous de la moyenne. C'est le cas, par exemple, de la Vendée, de la Somme, de la Corrèze. La Nièvre aussi est concernée. Pour Fabien Bazin, président du conseil départemental, il est donc temps d'alléger les mesures.
On demande au gouvernement de regarder la réalité sanitaire du terrain. On peut tout à fait penser que dans un territoire comme celui de la Nièvre, une levée partielle, voire totale des mesures, et je pense singulièrement au pass sanitaire, serait de bonne allure. Dans la mesure où on est à un niveau aujourd'hui de circulation du virus qui le permet, bien sûr.
Mais attention à ne pas aller trop vite, prévient Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM.
Je pense que c'est un peu tôt. Il faut regarder la circulation du virus, donc des taux d'incidence, depuis au moins 4 à 8 semaines pour se dire « ça a l'air calme, on peut y aller ». Et puis aussi, j'ai toujours une interrogation sur des mesures locales. On ne peut pas exclure que les gens se déplacent. Et donc, c'est difficile d'appréhender les conséquences que ça pourrait avoir sur la transmission.
Alors, l'exécutif devra trancher. Va-t-on vers un pass sanitaire local ou vers le maintien du dispositif actuel ? Une question qui sera débattue lors du Conseil de défense prévu mercredi.
Nicolas Feldman, l'actualité politique, ce sont aussi ses retrouvailles. Xavier Bertrand, un rendez-vous aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy.
À tous les candidats de droite y passent. L'ancien président a déjà reçu Michel Barnier et Valérie Pécresse. Ils savent tous que Nicolas Sarkozy donnera son favori à la dernière minute. Mais c'est un entretien qui compte, Louis de Raguenel. Alors, comment va-t-il se dérouler pour Xavier Bertrand ?
Eh bien, tout d'abord, il y a la photo, le clin d'œil. À droite, ça fait souvent du bien de poser avec Nicolas Sarkozy quand on est en campagne. Mais surtout, le président des Hauts-de-France souhaite expliquer sa stratégie à l'ancien chef de l'État, avec qui les relations n'ont pas toujours été fluides. Xavier. Réunion en urgence des chefs d'État des pays membres de l'OTAN veut en parler avec Nicolas Sarkozy pour une raison bien précise. C'est l'ancien président qui a fait revenir la France dans le commandement de cette organisation en 2007. Pour terminer, les deux hommes se verront une nouvelle fois cette semaine. Ce sera mercredi à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur de Natacha Bouchard, maire de Calais. Le hasard fait donc bien les choses pour Xavier Bertrand avec cette semaine très sarkozyste. Un affichage qui ne va pas lui faire de mal, mais qui risque une fois encore d'irriter les candidats à la primaire des Républicains, dont ne fait plus partie Xavier Bertrand.
Le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel, la primaire des écologistes, a rendu ses premiers résultats hier. Yannick Jadot est en tête avec plus de 27% des voix. Sandrine Rousseau le talonne à 25%. Plus de 100 000 personnes ont participé à ce premier tour. Le second est prévu ce week-end.
Europe 1, il est 8h06. Rien ne va plus ce matin entre la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Depuis l'annulation du fameux contrat des sous-marins, les alliés ne sont plus tout à fait sur la même longueur d'onde.
Florence Parly, la ministre des Armées, a d'ailleurs annulé sa rencontre prévue avec son homologue anglais. Les Britanniques qui tentent de calmer le jeu. Boris Johnson a rappelé hier l'amour indéracinable que porte l'Angleterre à la France. On attend désormais l'entretien qui pourrait apaiser les tensions entre Emmanuel Macron et Joe Biden.
Au-delà de la simple annulation de ce contrat à 56 milliards d'euros, c'est surtout la position stratégique de la France dans la zone Indo-Pacifique qui est en jeu. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
Grand reporter à Europe 1, pourquoi cette zone entre l'océan Indien et le Pacifique est-elle si importante pour la France ?
Eh bien tout simplement parce que c'est aujourd'hui la cour des grands en matière d'influence internationale. La Chine agit dans la zone de manière décomplexée et les Occidentaux veulent contrecarrer son action. Dans ce jeu, la France a toute sa place. Présente de la Réunion jusqu'à la Polynésie, ça représente 1,5 million de Français, 7000 soldats prépositionnés et des échanges commerciaux conséquents puisque cette région produit 60% des richesses de la planète. Hors de question de passer à côté, ni même d'abandonner le moindre mètre carré sur des zones de pêche. La mer est un enjeu clé, d'où cette question des sous-marins. Il faut pouvoir assurer la liberté de circulation dans cette zone. Là encore, ne pas laisser la Chine prendre la main.
On a vu, Jean-Sébastien, ces derniers jours que les alliances ne fonctionnaient plus vraiment. Faut-il changer d'allié ?
En fait, il faut renforcer les alliances déjà existantes, montrer à l'Inde qu'elle reste un partenaire majeur sur le plan stratégique. Si la France lui a vendu des avions Rafale, ce n'est pas pour rien. Et puis, il faut compter sur le Japon. Là, ce sont les échanges économiques qui sont importants et qui en font un allié de taille depuis qu'un accord de libre-échange a été signé entre Bruxelles et Tokyo. C'est important au moment où la France s'apprête à prendre la présidence de l'Union européenne. Mais attention, tout cela ne veut pas dire qu'il faut tourner le dos aux États-Unis et à l'Australie. Parce que dès que les trois pays auront un intérêt commun, ils travailleront ensemble sans aucun souci. Le naturel et le besoin de contrer la Chine reviendront au triple galop.
Jean-Sébastien Soldaini, tout près de chez nous maintenant, l'Allemagne. Bientôt à l'heure du changement, Angela Merkel passe la main après 16 ans à la tête du pays.
Les Allemands sont appelés aux urnes dimanche pour une élection législative particulièrement complexe. Jamais, Hélène Kohl, jamais elle n'avait été si incertaine.
Guten Abend, Herr Laschet. Guten Abend, Frau Baerbock. Guten Abend, Herr Scholz.
Signe du caractère totalement inédit de ce scrutin, hier soir encore la télévision allemande a organisé un débat entre les trois principaux candidats, le troisième en moins d'un mois car les sondages sont serrés et les Allemands indécis à plus de 30%. Pour la première fois de l'histoire de l'Allemagne, le chancelier sortant, en l'occurrence la chancelière Merkel, ne se représente pas malgré sa popularité.
Nein, wirklich nicht. Ganz fest.
Les Allemands veulent la continuité, mais la CDU et le SPD, qui ont gouverné ensemble les 8 dernières années, ont du mal à se différencier. Résultat, avec l'éparpillement des voix, il faudra sans doute que trois partis politiques s'associent pour trouver une majorité. Tout va donc se jouer après les élections. Dimanche soir, il est probable qu'on ne puisse pas donner le nom du successeur de Merkel, même si a priori ce sera un homme, car la seule femme en lice, la candidate écologiste, a cédé du terrain ces dernières semaines. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Hélène Kohl qu'on retrouve depuis Berlin tous les jours cette semaine afin de suivre de près cette élection allemande décisive pour le pays et pour l'Europe.
Enfin, dans l'actualité showbiz, cette nuit c'était les Emmy Awards en Californie, l'équivalent des Oscars de la télévision.
And the Emmy goes to The Crown.
Des étoiles plein les yeux pour The Crown, série Netflix qui retrace la vie de la famille royale britannique. Elle a été sacrée meilleure série dramatique et a remporté tous les prix d'acteur de sa catégorie. Ted Lasso l'emporte pour la comédie et Le Jeu de la Dame décroche le trophée de la meilleure mini-série succès complet donc pour Netflix cette année.
Voilà, on ne devrait plus dire les Oscars de la télé, mais les Oscars des plateformes, ce serait beaucoup plus clair. Merci Fanny Marceau.